proposerai tout d'abord une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 25, et puis le début du chapitre 3, Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, mais n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Puis nous passerons au Nouveau Testament, au début de l'évangile de Matthieu. Matthieu, au chapitre 2, verset 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Puis dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 28, cela se passait à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Puis au verset 35 de ce même chapitre, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et regardait Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Enfin, au verset 45 à 50. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus veut venir à lui, Nathanaël, et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ?» Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le premier dit, Dieu m'appellerait, dites-vous ? Franchement, je n'ai rien entendu. Pas le moindre mot. Dieu ne m'a jamais parlé, et de toute façon, qu'aurait-il à me dire ? Ma vie, elle s'est faite comme ça, sans que j'ai besoin d'y mettre Dieu. Je ne l'ai jamais recherché, jamais considéré et jamais trouvé. Je ne pense pas à Dieu. J'y pense là maintenant et j'en parle parce que vous me dites que Dieu m'appelle, mais c'est vraiment peu dans mes habitudes d'y penser. Pour moi, la vie, ma vie consiste en ce que je vois, en ce que je fais, en ce que je désire, hélas aussi, en ce qui m'inquiète. Ma vie, c'est bien vivre, c'est s'amuser, c'est bien manger, c'est l'amour, C'est mon travail, la famille, les vacances, l'argent, une bonne retraite. Ma vie, c'est tout cela et encore d'autres choses que je vous laisse imaginer. Et puis, c'est aussi un peu mon pays, mon club de foot préféré, mes idées politiques, si j'en ai encore. Enfin, bien sûr, la santé. Ah, les gens le disent bien, ils ont raison. Bonne année, bonne santé. Surtout la santé, c'est ça le plus important dans la vie. Bien sûr, il y a le problème de la mort. Les impôts et la mort. Comme dit l'autre, dommage qu'on ne puisse pas intervertir l'ordre. En tous les cas, moi, je sais quand même où je vais quand je meurs, quand je mourrai. J'ai ma place retenue au cimetière de ma commune. Les frais de mes obsèques sont déjà payés. Je suis tranquille. Je souhaite seulement mourir le plus tard possible, sans avoir été malade et sans m'en rendre compte. Non, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas le temps pour tout cela. Alors, Dieu m'appellerait. Mais je vous l'ai dit, je n'ai rien entendu du tout. Du tout. Ou alors, si faiblement, si courtement. Peut-être j'entends vaguement quelque chose lorsque je vois s'exprimer, se vivre la foi de certains, des grands personnages, Mère Teresa, l'abbé Pierre. Oui, parfois cela m'interpelle un peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est vite oublié. Où es-tu, demanderait Dieu ? Où es-tu ? Me demanderait Dieu ? Eh bien, s'il est Dieu, il doit bien savoir où je suis, n'est-ce pas ? Quel besoin alors de m'appeler ? Où es-tu ? Dit le deuxième. Écoutez, je sais bien où je suis là où je veux être et je fais ce que je décide de faire. Et je ne reconnais certes pas à Dieu, je ne vous reconnais pas le droit de m'interroger sur ce que je fais, sur ce que je vis, sur là où je me trouve. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux, comme je le veux. Je refuse de considérer que toi, Dieu, si tu existes, tu aies le droit, quelque droit sur moi, droit à m'interroger, à me questionner, à m'interpeller. Oui, je sais bien que l'Église chrétienne désapprouve ce que je fais, ce que je vis, que les croyants me jugent pécheur, comme ils disent encore parfois, mais de quel droit ? Mais quelle nécessité de me soumettre à des règles de vie qui ne me conviennent pas ? Je retiens, c'est vrai, éventuellement, telle ou telle chose dans la morale judéo-chrétienne. Tu ne tueras point, ça c'est valable pour l'essentiel. Tu ne mentiras pas, tout le monde ment, alors pourquoi pas moi ? Des hommes politiques, mes collègues, tout le monde, je ne vous parle pas de mon patron, je ne vais pas me troubler avec ça, l'important c'est de bien mentir et puis d'avoir suffisamment de mémoire pour ne pas s'en mêler. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors ça, c'est vraiment dépassé. D'abord, est-ce que c'est nécessaire de se marier ? Et puis, c'est plus valable pour l'époque moderne, si ça l'a jamais été. Bon, ça vaut la peine de se mobiliser pour le mariage pour tous, mais contre l'adultère, c'est complètement dépassé. Non, je n'ai pas à prendre au sérieux ce que Dieu tient en réserve derrière sa question « Où es-tu ? » Si tu veux le savoir, voilà ma réponse. Loin de toi, le plus loin possible. Je ne veux plus t'entendre, c'est simple. Tout comme ce Jonas, là, dans la Bible, que tu appelles à partir à l'est et qui file à l'ouest. Comme lui, sauf que je ne choisirais pas un vieux rafio pour ce faire, mais simplement ma vie de tous les jours, bien construite, complète, sans place libre pour Dieu et sa question. C'est complet, comme on lit en Angleterre, « No vacancies » dans les « bed and breakfast hein ». Cherchez, il n'y a pas de place, c'est fini, c'est complet. Je ne suis pas là. Moi non plus, c'est complet, ma vie est complète, terminée, je ne te répondrai pas plus. J'espère simplement que je ne traverserai pas des épreuves trop difficiles qui pourraient me pousser à ouvrir ma porte. Mais ça servirait à quoi ? Non, je préférerais vivre très vieux, sans maladie, sans problème grave, et puis mourir brutalement, sans penser à rien, de préférence. J'aimerais mieux qu'on ne m'euthanasie pas, mais sans avoir à réentendre cette question « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » me demande Dieu, dit le troisième. Oui, j'entends sa voix qui me dit ces choses qui sont belles, mais troublantes et qui m'interpellent. Où es-tu, mon enfant, mon ami? Nous étions pourtant dans une belle relation. Tu m'écoutais alors? Tu prêtais attention à mes conseils, mes directives pour ta vie, et tu t'en portais bien, et tu étais heureux. Et j'étais aussi de cette communion entre toi et moi. Tu faisais mon plaisir et je faisais apparemment le tien. Tu te réjouissais de retrouver tes frères et sœurs pour ensemble me chanter, me louer, pour vous édifier ensemble. Tu aimais lire ma parole, l'étudier, tu aimais aller à l'église. Tu aimais parler de moi et de mon fils, ton sauveur. Nous étions heureux ensemble, mon fils, ma fille. Pourquoi t'es-tu éloigné? Oui, c'est vrai, j'entends ces choses que tu me dis, Seigneur. C'est vrai que j'ai d'abord ralenti ma lecture de la Bible et puis réduit le temps passé et puis j'ai cessé pour l'essentiel de la lire progressivement. Et j'ai aussi cessé de te prier peu à peu, en tous les cas réduit le temps consacré à cela, parce que j'ai quand même tellement d'autres choses à faire. Et puis, j'ai cessé de venir régulièrement à l'église. Je préférais une grâce matinée à une matinée de grâce. J'ai trouvé que je n'avais pas besoin de donner autant d'argent pour l'église, après tout, que les autres le fassent, c'est leur tour. J'ai perdu pas mal d'affection pour mes frères et sœurs, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient quand même, il faut bien dire, quand même des défauts. Et je me suis éloigné parce que je ne vais pas à l'église pour voir des gens qui ont au moins autant de défauts que moi. C'est insupportable. Alors, oui, c'est vrai qu'au début de ma conversion, je les trouvais tous formidables. Mais après un moment, j'ai vu quand même leurs déficiences, leurs défauts. Et j'ai fermé mes oreilles pour ne pas entendre quand tu as cherché à m'atteindre de nouveau. Mais j'ai toujours la foi. J'ai toujours la foi et je peux bien vivre là-dessus. Parce que l'enseignement que j'ai reçu n'était pas que je ne pouvais pas perdre mon salut, de toute façon. Alors, j'ai trouvé que je pouvais très bien me passer de l'église, de mes frères, de la lecture de la parole, du lien de la prière avec toi. Et je me suis rassuré à bon compte. Mais j'ai la foi. Je reste chrétien, je ne fais rien de mal, je suis toujours fidèle, honnête, je ne vole pas, je suis un citoyen respectable. Tout va bien. Où es-tu? Mais Seigneur, je suis là, je ne suis pas loin, je ne suis pas loin. Ne t'inquiète pas, je suis simplement éloigné un peu. En fait, c'est une réorganisation de ma vie, c'est tout. Il faut bien que les choses évoluent un peu. À mon âge, je ne peux tout de même pas te prier et être enthousiaste comme je l'étais il y a 20 ans. Je ne vais pas me laisser émouvoir de la même manière par ton évangile, comme au début. Mais par contre, il faut dire que je connais quand même beaucoup plus de choses qu'avant. Je suis bien plus calé en théologie. Et ça doit te faire plaisir, Seigneur. D'ailleurs, régulièrement, j'augmente ma bibliothèque de livres chrétiens. Daniel Masson peut en témoigner. Et je les lis souvent. Où es-tu? Je ne suis pas loin, Seigneur. Ne t'inquiète pas. Où es-tu? J'entends cette question de Dieu, dit le quatrième. Et Dieu n'en reste pas là. Il m'interpelle, il me cherche. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, où es-tu? Où restes-tu? Où restes-tu? Oui, il me dit parfois ces choses. C'est vrai que tu as péché. Oui, tu as mal agi, tu as mal réagi. Tu t'es trompé. Et cela m'a peiné, car j'aime quand tu fais bien et fidèlement ce que j'attends de toi. Oui, c'est vrai que c'est parfois difficile de faire ma volonté, car tu es faible. Mais je suis là pour te porter, pour te guider, pour te protéger. Tu sais que je ne t'abandonne pas, je ne garde pas ma colère, je ne te rejette pas non, mon enfant. Oui, Dieu me dit, je suis heureux de voir tes regrets, tes larmes, tes peines, ta honte à cause de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu as pensé. Tu me dis, Seigneur, c'est bon que tu ne regardes pas à cela comme à quelque chose qui n'a pas d'importance. Tu me dis, je suis heureux que tu ne m'analyse pas, que tu ne t'habitues pas au péché, à la désobéissance, à l'erreur. Il est bon que tu ne fasses pas semblant de croire que tout va bien alors que tu dois corriger certaines choses de ta vie. Mais je ne souhaite pas que tu restes loin de moi, comme si je ne t'avais pas déjà pardonné. Tu sais que je t'aime, que je pardonne, que j'oublie tes fautes. Ce que je désire, c'est la communion avec toi, c'est que tu viennes vers moi dans la prière, dans la confiance, dans la joie. Ne te prive pas de cela. Ne me prive pas de cela. Oui, c'est bon, Seigneur, mon Dieu, d'entendre cela, de savoir cela. Mais quand même, tu sais que ma honte, ma tristesse, j'ai du mal à m'en débarrasser. Oui, mais tu me dis encore là, tes larmes et ta honte et tes regrets ont eu leur temps. Mais il faut que tu reviennes à la joie du salut que je t'ai donné, que tu vives cette joie de te savoir mon fils, ma fille. Le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas là pour t'accuser, mais pour te consoler, pour te guider, pour te réjouir. Profites-en. Profites-en toujours plus. Ne me fais pas attendre. Ne reste pas là avec le souvenir de ta faute. Où es-tu ? Où es-tu, toi, mon enfant que j'aime ? Oui, je veux te répondre, Seigneur, et revenir vers toi, afin que nous puissions ensemble nous réjouir. Oui, je pense, comme tu me le dis, que je peux déjà goûter un peu, et c'est déjà beaucoup, à ce que je vivrai un jour pleinement avec toi, la communion parfaite que tu promets, et avec tout ce peuple nombreux de tes enfants, mes frères et mes sœurs, dans l'éternité. Où es-tu ? En entendant cette question, le cinquième, qui est peut-être moi, peut-être vous, dit, dans le jardin d'Éden, Dieu ne se contente pas d'appeler Adam et Ève. Il vient vers eux dans la quiétude du soir. Et vous imaginez ce que cela aurait dû être dans la quiétude, avec la brise du soir, Dieu qui vient vers ses créatures. Mais il sait qu'ils ne pourront répondre à son appel. Alors il vient vers eux. Dieu n'a cessé d'appeler l'homme ainsi. Où es-tu ? Mais à cette question, il a joint ce mouvement vers eux, à maintes reprises, vers les hommes, vers son peuple, par ses prophètes et d'autres manières. Je suis votre Dieu, écoutez-moi. Oui, Dieu a appelé l'homme, mais il est aussi venu vers lui. Et y a-t-il une manière plus décisive de venir vers lui que dans l'incarnation de Jésus-Christ ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu en Jésus-Christ est venu vers l'homme. C'est ce que nous fêtons particulièrement en cette période de l'année. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous pourrions dire que Dieu était tellement anxieux d'avoir réponse à sa question posée à l'homme, « Où es-tu » qu'il n'a pu résister à envoyer vers l'homme, vers les hommes, son fils bien-aimé, pour avoir réponse, pour susciter une réponse satisfaisante. Si l'homme est trop incapable de répondre à cette question simple de Dieu, « Où es-tu » il a fallu à l'amour de Dieu pour nous les hommes qu'il aille vers eux, qu'il vienne vers nous, qu'il s'assure par lui-même, dans la personne de son Fils, qu'ils entendraient sa voix et y répondraient. Voici, a dit Jésus, je suis à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, ouvrez, afin que j'entre dans votre vie. Noël, c'est Dieu qui vient vers les hommes, c'est Dieu qui se donne aux hommes. Où est l'enfant qui vient de naître, demandent les mages. Cette question-là, elle est comme le pendant de la question posée à Adam et Ève et à chacun de nous. Où es-tu ? Si nous entendons l'appel de Dieu, il nous révèle là, il nous révèle où est cet enfant, ce sauveur venu vers nous pour répondre à nos besoins, pour nous libérer du péché, pour nous donner la vie. Il nous dit à Noël et tous les jours de notre vie, voici, là est votre Dieu. Voici votre sauveur, celui que j'ai envoyé. Parce que vous aviez tant de mal à répondre à cette question toute simple, où es-tu ? Noël, dans quelques jours, se dit le sixième en repartant chez lui. L'occasion festive, la joie d'être en famille, la joie des cadeaux, de bons repas. Noël, la célébration, surtout, et bien sûr, de la naissance de Jésus. Comment allons-nous vivre Noël ? Comment vais-je le vivre ? Est-ce que nous entendons ce que Dieu nous dit tout particulièrement dans ces jours-là ? Mon enfant, où es-tu ? Je suis venu vers toi, je me suis fait homme pour venir au plus près de toi. Est-ce que tu prends garde à cela ? Est-ce que tu entends mon appel ? Est-ce que tu as pris conscience de ma venue ? Est-ce que la naissance de Jésus, cela change votre vie ? Cela change ma vie ? Dieu m'a posé cette question. Il me la pose peut-être tous les jours. Où es-tu ? Il sait où je suis et où j'en suis. Il est venu vers les hommes, vers nous, vers moi, parce que nous ne pouvions répondre à sa question. Et encore maintenant, j'aurais quant à moi trop honte à cause de ce que je suis, de ce que je fais, alors il est venu. Et à Noël, nous redisons cela, qu'il est venu. Et entre parenthèses, nous ne le disons pas seulement à Noël, mais aussi le 1er janvier 2014, cela célèbre encore la naissance de Christ, et pourquoi pas tous les jours de l'année. Et il ne nous lâche plus. Il ne nous lâche plus. Si nous avons seulement ouvert nos oreilles et notre cœur à sa voix. Oui, il est venu pour nous débarrasser du fardeau de nos péchés et pour nous donner la joie, une joie abondante, semblable à nul autre. Comme j'ai envie, quant à moi, qu'il m'aime, qu'il m'aide à vivre de cette joie tous les jours de ma vie. Joyeux Noël à chacun. Amen.